Écoute. Écoute.
Bonjour Eric Orsena.
Bonjour Monsieur Boniface.
En 2015, vous avez inauguré les Géopolitiques de Nantes et vous parliez des dernières nouvelles du monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles dont on peut se réjouir qui viennent du monde ou est-ce que l'heure est au pessimisme ?
Alors, il y a dans les bonnes nouvelles des alertes qui commencent à être entendues. C'est-à-dire que la question environnementale qui était considéré comme un des éléments, devient une question clé. Et donc tout le monde commence à le savoir, à part quelques illuminés de lumière noire. Et on sait, parce que de moins en moins de gens, me semble-t-il, pensent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. De moins en moins de gens pensent que la planète n'est pas fragile. De moins en moins de gens pensent qu'il faut un tout petit peu changer. Bon, cela dit, on peut retourner ça immédiatement.
Oui, c'est parce que, aussi, j'ai envie de vous répliquer, c'est parce que peut-être la planète est de plus en plus fragile.
Parce que, alors, la planète étant fragile, il faut vraiment avoir des drôles d'yeux et pas d'oreilles du tout pour penser que c'est pas fragile. Alors, si on prend les choses... un de mes sujets depuis maintenant 20 ans, c'est l'eau. Et l'eau est une matière première absolument passionnante parce que c'est un miroir. C'est pas seulement un miroir pour regarder notre tronche. Quand on a la mienne, on préfère pas trop se regarder. Donc, c'est un miroir pour voir nos sociétés. Dites-moi comment vous fabriquez l'eau. Comment vous la consommez, au bénéfice de qui et à quel prix. Et je vous dirai absolument de façon précise à quel type de société vous appartenez. Féodale, démocratique, inégalitaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça en faisant un tour du monde de l'eau pendant 3 ans et demi, partout dans le monde, et j'ai quasiment fini un livre sur les fleuves, c'est-à-dire l'eau dynamique. Pour vous donner 2 exemples, le Rhône, avec des modèles tout à fait fiables. J'ai fait de l'économétrie, je sais la différence entre les modèles fiables et puis de pimpin. Le Rhône, dans une quinzaine d'années, aura non seulement 15% de débit en moins, mais en plus réparti de façon extrêmement inégalitaire, irrégulière au cours de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce Rhône, qui est dans un pays dit tempéré, qui est de moins en moins tempéré ? Qu'est-ce qu'on fait ? Exemple français. Autre exemple, j'étais en Éthiopie, il y a 3 ans, j'étais à l'ambassade de France, elle me dit que son collègue égyptien veut me voir, je le vois, et il me dit, le barrage que vous allez visiter demain, le barrage Renaissance, à la frontière de l'Éthiopie, et du Soudan, ne sera pas terminé. Pourquoi ? Parce que nous ne laisserons pas terminer ce barrage. Pour une raison très précise, c'est que depuis la nuit des temps, le pouvoir, contrairement à tous les autres pays, était en aval, c'est-à-dire à l'embouchure, avec l'Égypte, parce qu'il y a eu les pharaons, ensuite il y a eu l'Égypte, la Turquie, etc. Il y a eu l'Angleterre, la Turquie, etc. Et donc ils interdisaient à l'Éthiopie de prélever plus de 10% du Nil bleu, qui représente 80% du débit global du Nil. Sauf que s'il y a 90 millions d'habitants en Égypte, il y en a plus de 100 millions en Éthiopie, et que si j'étais les Égyptiens, je ferais un peu attention avant de taper sur un barrage, parce que l'Éthiopie est l'allié de la Chine, qui a choisi l'Éthiopie comme un des lieux de délocalisation de leurs entreprises considérées comme avec des coûts trop élevés dans leur pays. Donc, deuxième exemple. Troisième exemple. 800 millions d'êtres humains habitent les deltas. 800 millions d'êtres humains habitent les deltas. Et tous les deltas, sans exception, sont menacés. Pour les mêmes raisons. 3 raisons. Premièrement, c'est que en amont, on a multiplié les barrages. Qu'est-ce qu'un delta ? Il est le fils des sédiments. S'il y a moins de sédiments, il y a moins de deltas. l'altitude du delta baisse. Deuxièmement, le delta, par définition, est un endroit extraordinairement fertile. Donc, il y a eu de la végétation dans les temps très très anciens. Donc, il y a eu du carbone. Donc, il y a eu du gaz et du pétrole. On a creusé des trous partout. Et troisièmement, la mer monte. Partout. Et donc, comme la mer monte, vous avez un élément qui baisse, un autre qui monte. Donc, les deltas ont une très grande chance d'être sous l'eau. Déjà, la Louisiane est à 50% sous l'eau. Et je ne vous parle pas du Bangladesh, etc., etc. Donc, quand vous prenez ces questions-là, bon, d'un point de vue sanitaire maintenant, quand on voit la question. Ce qui est qui m'a frappé beaucoup, c'est la question de l'unité de la planète. Parce qu'il y a des éléments régionaux, mais il y a une unité très forte de la planète. Le meilleur exemple, c'est l'histoire de la Covid.
Justement, vous avez beaucoup parlé de mondialisation, le coton, le moustique, l'eau, le papier. Est-ce que le Covid vous paraît être le symbole tragique de la mondialisation?
Alors, c'est le symbole de l'unité de la planète. Et d'abord, l'unité du vivant. Nous avons été élevés, et moi en tant qu'économiste encore plus que les autres, dans une vision morcelée de la société et dans une vision oublieuse de l'entièreté du vivant. C'est-à-dire croissance, croissance, croissance. C'était mon truc à Paris 1, à la London School, c'est comme ça qu'on apprenait. Et petit à petit, on voit que morcellement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe avec la Covid? Qu'est-ce qu'un virus? C'est rien du tout, un code. D'une certaine manière, c'est numérique. C'est juste un code qui a besoin de pénétrer dans une cellule pour pouvoir se dupliquer. Et ce chaînon le plus infime de toute l'entièreté du vivant met à genoux les plus sophistiqués, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc, ne pas voir qu'il y a une unité complète dans ce vivant, c'est vraiment rien comprendre. Quelque chose m'a beaucoup frappé. Il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur. Donc j'ai fait un peu de biologie pour, non pas mériter, mais quand même ne pas me sentir trop mal à l'effet sur cet auguste siège. Et donc j'ai un peu travaillé là-dessus. Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. Il se trouve que l'Institut Pasteur, dont je suis devenu ambassadeur, avait acheté un des microscopes les plus puissants du monde, qui s'appelle Titan, qui est un microscope qui allie à la fois évidemment un microscope électronique plus des techniques compliquées de froid pour ne pas blesser le vivant qu'ils observent. Et j'ai appris en m'informant un peu que le premier virus à avoir été observé par un microscope électronique au milieu des années 1930, c'est un virus qui est un virus végétal. C'est le virus de la mosaïque du tabac. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut traiter la donnée pour voir, et on ne voit pas directement. Et en plus, le virus, il est végétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la même ligne. Et on reprend ce que dit l'OMS, c'est-à-dire une santé, une seule santé. Comment pourrions-nous aller bien, nous, partie du monde animal, si le reste des animaux allait mal? Comment les animaux pourraient aller bien si le végétal va mal? Et comment les végétaux pourraient aller bien l'ensemble de l'environnement allait mal? Donc, vous voyez, il y a une sorte de solidarité. De fait, je ne parle pas de morale, je parle de fait.
Nous Donc, sommes en sur fait, la même il faut planète. Être, c'est pas par générosité, c'est par égoïsme pas, presque mais, qu'il faudrait être sûr, solidaire.
Mais absolument solidaire. Vous savez, il y a un personnage que j'ai énormément aimé, qui s'appelait Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, il avait été capitaine au long cours. Ensuite, il avait continué, parce qu'il voilà, faire des études. Il était entré au CNES. Et c'est lui qui a lancé les premiers satellites d'observation en continu à très long terme de la mer. Hauteur de la mer, des mesures de salinité aussi, etc. Un satellite qui s'appelait Topex Poséidon. Et donc, il me disait cette chose incroyable, et très simple, il me dit, notre planète est un vaisseau spatial, on est d'accord, un vaisseau qui est dans un vaisseau spatial, très bien. Alors, dans un vaisseau spatial, il faut apprendre à être les marins de ce vaisseau spatial. Donc il faut devenir des géonautes. Nautes, géo. Des géonautes, donc apprendre à gérer ce vaisseau spatial. Et je complète avec mon expérience à moi de marin et de régatier. Je fais des régates en compétition. Et c'est très simple. La valeur d'un équipage, c'est toujours la valeur du plus faible. Ou vous faites monter en compétence le plus faible, ce qui est toujours moi, et vous êtes nul, ou vous montez, et à ce moment-là, vous pouvez avoir des résultats pas trop scandaleux quand vous faites des courses. Donc, si vous avez la solidarité et la mesure de l'efficacité d'un élément solidaire, et avec le plus faible, vous avez déjà des lois quand même qui sont quand même tout à fait fortes.
Et vous diriez que si le Covid-19 nous a frappés si fortement, si cruellement, c'est qu'on n'a pas su faire preuve de cette solidarité.
C'est que d'abord, on a cru que ça ne nous arriverait jamais. Je me suis trompé parce que je pensais, et je le pense encore, que nous sommes fragiles et nous sommes potentiellement dans une sorte de... Nous sommes menacés par d'autres formes de pandémie. Dans un livre que j'ai écrit qui s'appelait « Géopolitique des moustiques », je rappelais, ce qui est la vérité, que 60 départements français, encore une fois, le pays tempéré, 60 départements français sont habités par des moustiques qui potentiellement peuvent transporter le virus de la dengue. Et alors, franchement, c'est pas agréable d'avoir la Covid, mais avoir la dengue, c'est pire, parce qu'il y a 4 dengues, et les 4 sont, quand vous avez la deuxième fois, vous n'êtes pas immunisé du tout pour la première. Et vous avez eu le problème avec Sanofi, que c'est pas du tout évident de faire un vaccin sur la dengue. Donc, ça veut dire que, potentiellement, c'est là. Et là, alors, on entre encore dans ces affaires, très intéressantes, sur des questions d'échelle. Parce que là, on a parlé un peu globalement. Mais regardez, question d'échelle qui est intéressante. Je vais à Toulouse pour une rencontre de l'ONG que nous avons, enfin l'association que nous avons créée avec la Compagnie nationale du Rhône et Elisabeth Hérault, qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves. On travaille avec l'agence à Dour-Garonne, et puis on travaille avec le maire de Toulouse qui dit « J'ai plus d'eau dans la Garonne. Qu'est-ce que je fais ?» Il n'y a plus d'eau dans la Garonne. Donc on fait quoi? Alors on dit c'est à cause du maïs, très bien, c'est une des raisons, mais ce n'est pas seulement ça. Et je prends ma petite voiture et je fais Toulouse-Bordeaux. Et Toulouse-Bordeaux, je vois des élevages de canards. Et je vois dans chaque à côté, chaque ferme, où il y a des élevages de canards, une mare. Et je dis, mais cette mare, c'est un gîte larvaire absolument formidable. Ils disent, oui, mais c'est bien parce que c'est petit. Alors que si on avait refait une retenue d'eau à 5 km, plus importante, avec autant d'eau qu'il était nécessaire, ça aurait été beaucoup moins dangereux parce qu'un moustique, il ne circule pas plus de 500 mètres. Donc, vous avez là une question globale à régler et vous avez de l'idéologie qui doit aborder ces questions. Donc, et il y a un rendez-vous que tous les pays vont devoir avoir, et notamment la France, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère une ressource de plus en plus rare et de plus en plus irrégulière qui s'appelle l'eau. Et ça, ça va être un grand rendez-vous. Et c'est, voilà, donc vous voyez, ce que je
fais... On a beaucoup parlé des guerres de l'eau, et souvent alors... pour dire que non, c'était pas le cas, que les causes étaient ailleurs, que l'eau pouvait être éventuellement un facteur aggravant. Vous pensez que, en termes géopolitiques, l'eau est l'un des sujets majeurs dans les années qui viennent?
Alors, à mon sens, c'est un sujet majeur. J'ai fait pas mal de conférences à l'école de guerre sur la question de l'eau. C'est un sujet absolument majeur. Pourquoi? Parce que, un, il y a un grand tabou, il y a la question de la démographie, qu'on ne veut pas aborder, parce qu'il y a une sorte de mélange avec les religions les religions.
Président Macron, qui a abordé ce sujet sur l'Afrique de l'Ouest, s'est fait reprendre de volée. Et effectivement, quand on parle, quand des Occidentaux notamment parlent de cela,
tout à fait, il y a... bien sûr, c'est notre richesse, etc. Alors, je connais le Sahel, qui est vraiment ma deuxième patrie, où je ne peux plus aller parce que je serai pris en otage dans la seconde. Comment imaginer, quand on a été une demi-heure dans le Sahel, qu'on va pouvoir offrir un avenir à 150 millions de jeunes dans les trois pays du Sahel? Ceux qui ont une solution, qu'ils me l'apportent. J'aimerais bien savoir. Ce même Michel Lefebvre, il me disait, quand on construit un vaisseau spatial, d'après toi, quelle est la première question qu'on se pose? Alors, machin, je disais tout ça, panneau solaire. Non, non, non. La première question qu'on se pose, c'est combien de personnes il y aura dans ce vaisseau spatial? Donc, il y a ce genre de questions. Donc, d'abord, il y a cette tension démographique. Mais pire que cette tension démographique, il y a la concentration. C'est-à-dire, il y a la concentration dans les villes, qui, toute ville, la plupart des villes, 9 dixièmes des villes, sont sur bord de rivage. Rivage de fleuve et rivage de mer. Pourquoi? Pour être, avoir une sorte de Wi-Fi naturel. Pour être connecté dans des Wi-Fi naturels. Donc, ils sont là. Donc, fragiles, voire précédemment avec les montées des eaux ou les assèchements. Donc, quand on s'égorgeait pour avoir de l'eau autour d'un puits, ça mettait un peu d'animation dans le désert où on n'a pas Netflix. Mais là, comment ça va se passer? Quand vous avez deux métropoles de 10 millions d'habitants qui se battent sur le même fleuve, comment ça va se passer entre Addis Abeba et puis à l'autre bout, le Caire, avec maintenant, avec tout ce qu'on fait à Alexandrie, 30 millions d'habitants? Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est vrai, je sais que la solution, ça implique le développement, mais il faut aussi ne pas être dans le déni. Mm-hmm. Vous voyez, c'est ce genre de questions-là. Donc, et la tension est là, en France, parce que ce que je vous ai dit sur les fleuves, c'est différent sur la Seine, c'est différent sur la Loire, mais je vois dans ma Bretagne, ma chère Bretagne, vous avez non seulement des questions de qualité de l'eau, c'est-à-dire parce qu'il y a les algues vertes, etc., pour une raison géologique extrêmement simple, c'est qu'il y a une plaque de granit et que vous n'avez pas de phréatique. C'est-à-dire tout ce qui tombe dans l'eau, avec 30 mètres, boum, ça rebondit, ça glisse sur la nappe phréatique et ça va dans l'eau. Donc vous avez des problèmes évidemment de pollution, parce qu'en Bretagne, avantage ou inconvénient, quand on fait une connerie, ça se voit. Ailleurs, non. Donc, peut-être vaut-il mieux que ça se voit. Bon, ça. Mais vous avez déjà des raretés. C'est-à-dire, chaque été, en Ille-et-Vilaine et dans certains endroits, vous avez des problèmes de manque d'eau. Donc, comment est-ce qu'on va faire? L'eau, ça va être la grande question. Et ça va être... Et avec une question qui va se poser, c'est-à-dire comment on partage. Alors, évidemment, il faut économiser.
Et avec une planète de plus en plus peuplée au niveau global.
Et au niveau global, et surtout concentrée. On me dit, ah, mais ça va être partout. Mais attendez, les gens, ils n'ont pas envie d'être partout. D'autant plus que, on a concentré les humains dans les villes en donnant de moins en moins de possibilités aux agriculteurs de rester dans les campagnes, en industrialisant un maximum l'agriculture pour avoir des produits alimentaires de moins en moins chers. Et comme on a peur des troubles dans les villes, eh bien, on donne des produits encore moins chers au détriment des agriculteurs qui quittent les milieux ruraux pour venir encore dans les villes.
Il est encore temps de revenir en arrière?
On peut... Alors, la question de revenir en arrière, c'est, à mon sens, la question des échecs.
Moi, je veux dire, enfin, quand je dis revenir en arrière, c'est éviter le scénario catastrophe que vous nous déroulez maintenant.
Alors, moi, je pense que... À l'action, c'est c'est une échelle spatiale et un calendrier temporel. L'échelle, comment est-ce qu'on peut agir? Je commence à avoir des doutes sur la capacité d'un État à organiser des transitions. Parce qu'il est pris en otage par différentes des logiques qui peuvent se défendre. et que la notion de l'État, c'est, enfin, c'est l'échelle de l'État, c'est trop gros parce que il y a de moins en moins le sentiment d'unité nationale, et que c'est trop petit parce que ça se passe ailleurs. Une politique énergétique nationale n'a pas de sens si elle n'est pas européenne. Vraiment. Et moi, alors, ma conviction maintenant, après avoir été un vrai jacobin, vraiment, moi, je suis à la fois régionaliste et européen. Donc, enfin, il y a une présidente de Commission européenne qui ne soit pas les guignols précédents, aujourd'hui. Respect pour Mme von der Leyen. Respect, parce que ce qu'on a eu, c'était quand même des pantins de l'impuissance, et qui étaient faits pour ça. Donc, pour moi, j'avais mal à l'Europe comme pas possible. Et on en parlait récemment, j'ai assisté au niveau en dessous, en juin 2019, à ce qu'on avait appelé la Brescope, à Saint-Brieuc. Il y avait les 1250 parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens dans tous les domaines qui sont dynamiques en Bretagne, qui savent que la Bretagne a, grâce à son modèle, la Bretagne a pu sortir d'une vraie pauvreté. Moi, je suis né en 47. Jusqu'à la fin des années 50, la Bretagne, c'était la terre battue dans beaucoup d'endroits. C'était les chiottes au bout du jardin, c'était tout ça. Donc, j'ai vu monter ça, avec un prix pour l'environnement. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a réussi ce premier débat, ce premier challenge. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et c'était passionnant, parce qu'il y avait les agriculteurs, les transformateurs, il y avait les industriels, il y avait les universitaires.
C'est ça qui vous occupe le plus en ce moment ?
Ah, moi, je suis passionné par ça. Comme j'ai aucun moyen de parler au niveau européen, je ne sais pas qui l'a d'ailleurs en ce moment, mais je suis absolument passionné par ça, parce que là, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, les élevages porcins qui ont permis, et de volailles qui ont permis cette sortie de la Bretagne de cette misère, on peut les faire évoluer petit à petit, en respectant mieux, en montant en gamme, en contrôlant, en mettant un moratoire. Ça va être un des éléments sur lesquels on va discuter. Ça me passionne. Ça me passionne de voir, parce que c'est suffisamment grand pour avoir un laboratoire de taille suffisante, comme les essais, les phases 3 dans les vaccins. Vous voyez, c'est pas du tout un petit truc. C'est, moi, j'aime bien ce que Ferrabi, c'est formidable, mais moi, je suis colibri, mais dopé. Pour moi, j'aime bien quand il y a 300 000 colibris. Mais à 3 colibris, je préfère qu'il y en ait un peu plus. Donc, je suis absolument passionné par ça, et en disant, ben, pourquoi on ne fait pas ça ailleurs ? Pourquoi on ne fait pas ça ailleurs ? Donc, et je suis effrayé par... et là, il faut qu'on se batte, et là, c'est votre rôle... À mon petit niveau, c'est le mien, pour deux questions majeures. La première question, c'est comment donne-t-on de la valeur au temps long dans les démocraties ? Comment ? Vous voyez bien que de plus en plus de gens...
C'est un enjeu majeur.
Majeur, doutent de la capacité des démocraties à résoudre les questions du long terme. Et d'ailleurs, ils font tout pour qu'elles ne soient pas capables de ça. Mais enfin, ils doutent de ça. Dont la tentation d'être avec des régimes autoritaires. Et on dit, de toute façon, ils font là, donc c'est Poutine, c'est tout le monde, etc. Donc la démocratie est en grand péril pour cette raison-là.
Parce qu'elle n'est pas censée s'occuper du long terme, c'est ça ?
Mais de moins en moins. Puisque maintenant, on disait, bon, au moins le temps d'un mandat, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans... On avait le temps. Maintenant, non, puisqu'on les remet en cause de façon permanente. À la fois par des chaînes continues, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, etc. Donc, la légitimité est complètement remise en cause. Donc, moi, si j'étais essayiste, je reprendrais ma petite casquette de conseiller d'État et je regarderais un peu ce que ça donne, c'est-à-dire la démocratie. Comment redonner... Moi, j'étais très sceptique sur la Convention citoyenne. Mais bon, vous voyez, ça a des éléments, ça a un peu des... Après, on a ruiné un peu les éléments. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième menace, qui est absolument terrible, c'est la menace du savoir, de la perte de confiance sur le savoir. Et ça, pourquoi ? Parce que comme les mécanismes sont complexes, eh bien, on est pris de vertige, saisi de vertige. Donc on préfère du faux, même s'il est simple. Si jamais on ne retisse pas un lien de confiance avec le savoir, là, c'est la barbarie.
Merci Eric Orsenna. Donc, essayons de rehausser, de redonner du lustre au long terme, de ne pas laisser ce monopole au régime autoritaire, et aussi de réhabiliter le savoir qui, effectivement, est extrêmement attaqué en ce moment. Merci Eric.
Merci.